Et question ce matin sur l'hypothèse d'une deuxième vague virale en France et dans le monde. On voit ça avec nos deux invités. Professeur Anne Goffard, vous êtes virologue au CHRU de Lille et au sein de l'Institut Pasteur de Lille, grande spécialiste des SRAS. En ligne également, le professeur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, médecin à l'Hôtel Dieu, directeur de l'IRMES. L'IRMES, c'est l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Bonjour à tous les deux. Professeur Anne Goffard, pour commencer, vous faites partie de celles et ceux donc qui pensent qu'il y aura une deuxième vague. C'est d'ailleurs le point de vue dominant parmi les scientifiques. Pourquoi cette deuxième vague est-elle inéluctable à vos yeux?
Alors, pour faire cette affirmation, je me base sur d'abord, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mon expérience sur les virus et les coronavirus, mais aussi sur des études qui ont été publiées à la fois par des Chinois, mais aussi des Italiens, des Anglais, et même par des équipes françaises, puisqu'il y a l'équipe de Monsieur Bouel qui fait ce genre d'analyse. C'est des équipes qui sont spécialisées dans la modélisation des épidémies et des maladies infectieuses. Toutes ces études qui ont été publiées dès la mi-mars montrent qu'effectivement, on va très probablement avoir une deuxième vague épidémique qui est liée au fait que, du fait du confinement, la circulation de l'infection parmi la population française, puisqu'on parle des Français en ce moment, la circulation du virus s'est ralentie très fortement. Et là, quand on va sortir du confinement, parce que par définition, un confinement doit s'arrêter. Quand on va sortir du confinement, la circulation du virus va reprendre à un niveau plus élevé. Et du coup, davantage de personnes vont être infectées. Et toute la question est de savoir quand est-ce que cette deuxième vague va arriver. Est-ce qu'elle arrive dès la fin de l'été ou est-ce qu'elle arrive plus tard dans l'automne, en octobre ou en novembre?
Une deuxième vague, puis probablement une troisième, d'autres vagues successives. Sait-on à peu près jusqu'à quand ces vagues?
Alors ça va dépendre de différents paramètres. D'abord les paramètres viraux, c'est-à-dire on ne sait pas ce virus-là, par exemple, est-ce qu'il va être sensible aux saisons, aux changements de température et d'hygrométrie des saisons. On peut s'y attendre parce que c'est ce qu'on remarque pour d'autres virus respiratoires comme le virus de la grippe ou d'autres coronavirus. Mais pour ce virus-là, on ne sait pas puisqu'on le découvre avant la fin 2019, il n'existait pas chez l'humain.
Alors des vagues.
Donc c'est des paramètres viraux d'une part.
Oui, allez-y.
Mais il y a aussi des paramètres humains. Excusez-moi, il y a aussi des paramètres humains, le taux de séroconversion, de protection, d'immunité de la population qui va entrer en ligne de compte et qui va modifier la circulation du virus dans la population.
Alors, professeur Jean-François Toussaint, vous n'êtes pas sur cette hypothèse dominante d'une deuxième vague. Sur quoi vous basez-vous donc pour dire qu'il n'y aura certainement pas de deuxième vague?
Il y aura peut-être une deuxième vague. Il n'y aura peut-être pas de deuxième vague. Il faut absolument regarder ce que sont les évolutions de ces phases épidémiques dans la totalité des pays. Plus de 180 maintenant ont déclaré des cas et des décès de par le monde. Et voir comment, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, ces dynamiques évolutives de la maladie se produisent. Alors si on regarde la totalité des décès dans le monde, le maximum a été passé le 16 avril avec 9620 décès en une seule journée. Hier, nous étions à 5840 décès, c'est-à-dire une diminution de 40% en 10 jours. En France, le maximum de contamination avait eu lieu le 31 mars. Depuis, elle a été réduite de 80% puisqu'on est passé de 7580 cas à 1500. Et le pic des décès était le 6 avril, 605 décès en milieu hospitalier. On était à 198 hier, une réduction de 70%. Dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. De la même façon, on est passé de 929 décès le 9 avril à 171 hier, à nouveau une diminution de 80%. Donc les chiffres nous disent, dans le monde comme en France, qu'on est passé de l'autre côté du sommet de cette vague et que la plupart des pays, et en particulier les pays européens, depuis début avril ou mi-avril, ça s'est fait à plusieurs jours d'écart, mais dans cette période-là, tous les pays descendent. Et donc maintenant, ce qu'il faut regarder, et à juste titre, on doit s'attendre à toutes les hypothèses, on doit regarder ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, on a des choses très différentes en fonction du virus. Cet agresseur-là a relativement peu changé, il y a des mutations, mais il reste toujours aussi agressif. Mais il y a maintenant la cible humaine, le docteur Goffard en parlait, ce sont à la fois les personnes âgées, ce sont aussi les taux d'immunisation, mais ce sont aussi les conditions sociologiques. On voit qu'au Danemark, les gens qui sont dans des toutes petites unités de maisons de retraite, les personnes âgées qui sont les premières ciblées, ont eu un taux nettement moins important. Et puis il y a enfin un contexte, et ce contexte, c'est l'environnement, ce sont les données de la chaleur, ce sont les données de l'humidité, ce sont les données de renouvellement de l'air, ce sont les données de pollution. Toutes ces questions environnementales font que le combat se passe sur un ring entre un agresseur et un agressé, mais dans un contexte donné, et il faut tenir compte de tout cela pour voir comment ça va évoluer.
Donc pour vous,
il n'est pas certain, parce qu'on ne la voit nulle part, que la deuxième vague se mette en place.
Et donc pour vous, professeur Jean-François Toussaint, ce sont les températures plus chaudes cet été qui, en France, auront raison de ce Covid-19 ?
Alors, ce que disait Vincent Maréchal, virologue à l'hôpital Saint-Antoine hier, c'est qu'effectivement, ce virus enveloppé a une enveloppe qui est sensible à la chaleur. Et donc, dans la transmission, dans les gouttelettes, dans ce qui se passe sur le temps de persistance sur les surfaces, on peut imaginer que cet effet-là puisse se voir. Ce qu'il y a surtout, c'est quand on regarde la différence entre les pays qui sont les pays dans des circonstances chaudes actuellement et les pays dans les circonstances tempérées, autour de 10 degrés au moment du démarrage de l'épidémie, tous les pays européens et tous les pays de la bande entre 20 et 55 degrés de latitude nord, où on concentre 90% de la mortalité, c'était aux alentours de 10 degrés. Si on va vers le nord et vers le froid, les pays scandinaves, la Corée, etc., on a des taux beaucoup plus faibles. Si on va vers le sud, vers 25, 30 degrés, comme les pays d'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique intertropicale et les pays comme l'Australie en Océanie, alors à ce moment-là, on voit des taux qui ont été 100 fois inférieurs à ceux rencontrés dans les pays européens.
Professeur Goffard, selon l'OMS hier, il n'y a aucune preuve d'immunité chez les personnes guéries une première fois. On peut dire que vous, à l'Institut Pasteur, vous êtes sur la même ligne.
Alors, bon, moi, je suis pas à l'Institut Pasteur de Paris, je suis à l'Institut Pasteur de Lille, c'est un petit peu différent, mais effectivement, pour les coronavirus, nous ne sommes pas encore certains, même si il y a des études qui sont en cours et des résultats qui sont encourageants, nous ne sommes pas encore certains que les personnes qui ont été infectées et guéries soient durablement protégées. Ils sont certainement protégés pour quelques mois, mais est-ce que cette protection est valable longtemps, plusieurs années ? Ça, c'est des notions qu'on n'a pas encore. Pour ça, je me base sur l'étude des autres coronavirus, qu'il y a d'autres coronavirus qui circulent chez les humains et régulièrement en France, notamment à l'automne, qui sont responsables du rhume en général. Et on fait plusieurs rhumes au cours de notre vie. Alors, les coronavirus ne sont pas les seuls virus responsables de rhume, mais on fait plusieurs infections à coronavirus au cours de notre vie. Ce qui veut dire que notre immunité ne nous protège pas de manière durable. Et donc c'est une des inconnues avec ce virus-là qui vient d'émerger chez l'humain, c'est qu'on ne sait pas si l'immunité que nous acquérons en faisant l'infection sera durable ou pas. Il va donc falloir attendre de voir l'évolution dans la population.
Patricia Martin.
Donc a priori, professeur Goffard, pas de passeport immunitaire à vie. Au sujet de l'immunisation, qui développerait les anticorps les plus efficaces ? Est-ce que ça, on en a une idée ou pas du tout ? Est-ce que c'est les personnes qui ont été le plus touchées ou au contraire les moins touchées ? Tout à l'heure, le professeur Toussaint parlait des personnes âgées. Est-ce qu'il y a les jeunes aussi qui sont peut-être mieux immunisés ou au contraire les plus âgés d'entre nous ? Est-ce que ça, on le sait ?
Pour l'instant, c'est des informations qu'on n'a pas encore. Parce que, alors là, on va rentrer dans les détails de l'immunologie antivirale. Il y a une différence entre le fait de produire des anticorps, ce que nous produisons au cours d'une infection virale notamment, et la capacité protectrice, neutralisante de ces anticorps. Et ça, pour l'instant, il y a une première étude de l'Institut Pasteur de Paris qui sort en ce moment, qui donne des renseignements là-dessus. Alors, ce qu'on sait, c'est que les plus jeunes, les personnes en bonne santé avant l'infection, sont des personnes qui vont développer une immunité de bonne qualité et qui devraient être protégées correctement. On sait aussi que les personnes âgées, notamment les personnes très âgées, probablement de plus de 75 ans, du fait du vieillissement de leur système immunitaire, vont développer une immunité plus fragile. On parle d'immunosénescence pour ces personnes-là. On sait aussi que les personnes qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, peuvent avoir une immunité plus faible contre les maladies virales. Donc c'est un petit peu difficile de répondre de manière catégorique et correcte à votre réponse. On manque encore d'éléments à votre question, pardon. On manque encore d'éléments vraiment corrects pour répondre.
Professeur Toussaint, sur les immunisations de groupe, comment expliquer que la Suède, qui n'a pas confiné, espère atteindre rapidement l'immunité collective? C'est une question de semaines, disent les Suédois, ce qui est inenvisageable en France.
Alors, la question que pose l'attitude suédoise est clairement celle de l'évolution naturelle de la maladie, beaucoup plus que celle de l'immunisation, parce qu'ils n'ont pas de taux très supérieur au nôtre. Ils n'arriveront jamais aux 60 ou 70%, qui sont, là encore, un objectif théorique. On pense qu'il faut arriver à cela pour pouvoir avoir une situation, mais tout dépend, en fait, de ce qui se passe si le réservoir de virus lui-même est en diminution à cause des circonstances de transmission et donc du contexte environnemental. Pour la Suède, ce qu'il y a surtout, c'est que la Suède a choisi une option très différente des autres sans confiner parce qu'elle n'a pas cru aux modélisations. Et les modélisations qui étaient utilisées à ce moment-là, qui ont été diffusées de par le monde et qui ont conduit au confinement de la moitié de l'humanité, promettaient à la Suède 70 000 morts. Et la Suède en est actuellement à 2 000.
2000 décès, c'est bien moins que les 22 600 en France.
Un immense écart. Moins que les 22 000, mais rapporté à la population, ils sont deux fois en dessous de nous, au taux par million d'habitants. Mais sur ce qui était surtout prédit à la Suède avec d'excellents épidémiologistes, d'excellents spécialistes de la santé publique, ont pris une option différente en se disant « on ne peut pas immobiliser la totalité de notre population. On devra faire attention en particulier à l'organisation dans les maisons de retraite, et ils reconnaissent cette difficulté-là. Mais entre 2000 et 70 000 décès, on voit que là, la modélisation n'est pas la réponse toujours optimale pour pouvoir se faire une idée. Ce qu'il faut surtout, c'est observer la réalité, et très vite, comme par exemple ce qui s'est passé dans les 30 régions autour de Chine, comme ce qui s'est passé en Australie, qui ne connaît plus que 10 contaminations par jour depuis une semaine, et 1 à 2 décès par jour depuis une semaine. Elle montre que ce pays-là, comme la Corée, est en train de quasiment cesser cette première vague épidémique.
Allez, on va aller au standard de France Inter avec les questions des auditeurs. Pierre nous appelle. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Il semblerait qu'il y ait un consensus pour dire qu'avec une immunité collective de 60-70%, le problème serait résolu. Mais cette immunité collective, on l'obtient en étant contaminé ou en étant vacciné. À l'heure actuelle, il n'y a pas 1% de la population qui est immunisée en France. Faut-il attendre un ou deux ans pour y avoir des vaccins? Et puis, une petite remarque. Tout à l'heure, vous avez signalé que dans l'Afrique intertropicale, la contamination était très lente. Est-ce que vous savez que dans cette Afrique intertropicale, la plupart des gens prennent de la guillotine tous les jours?
Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. D'abord, sur la question de la durée, on avait posé la question tout à l'heure à Anne Goffard. On va poser la question également à Jean-François Toussaint pour commencer à répondre. Est-ce qu'il ne faudra pas donc attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour acquérir cette immunisation collective?
Alors, si c'est le cas, c'est effectivement une attitude que l'on prendrait, qui nous ferait guérir de cette pandémie, et nous serions guéris mais morts. Parce que la conséquence principale du confinement, ce sera celle de l'effondrement de l'ensemble de nos activités, de l'ensemble des activités économiques, qui soutiennent aussi les systèmes hospitaliers, qui soutiennent la médecine biotechnologique dont nous disposons actuellement, qui permettent de soigner les malades Covid, mais aussi tous les autres patients qui ne sont plus revenus à l'hôpital. Et si on prend une attitude qui est celle que recommandent certains épidémiologistes de faire durer un confinement généralisé, j'entends bien un confinement total de la population pendant des mois et des années, alors à ce moment-là, vous finissez par avoir un effondrement entraîné par le confinement.
Professeur Goffard.
Oui, je suis pas tout à fait sur la même ligne, mais effectivement, moi, je crois à l'efficacité d'un vaccin. Un vaccin, ce sera pas avant 2021 probablement, parce que c'est long à mettre en place. Donc, en attendant, il va y avoir des vagues épidémiques et peut-être. Il faut s'y préparer, en tout cas, d'autres épisodes de confinement qui peuvent être plus réduits dans le temps, qui peuvent être espacés de périodes où on retourne travailler, on peut de nouveau sortir et autres. Mais c'est des éventualités qu'il ne faut pas abandonner tout de suite, même si le confinement est très difficile à vivre.
Les prochains reconfinements, ils ne dépendront que des futures saturations des hôpitaux. C'est la théorie du stop and go, c'est ça qui va donner le là du reconfinement, professeur Goffard ?
Je pense que effectivement, c'est la mise en tension des systèmes hospitaliers qui a aujourd'hui déjà été l'argument principal pour mettre en place le confinement. Il fallait pouvoir accueillir tous les patients, et en France, grâce au confinement, grâce aux Français qui ont accepté de se mettre en confinement, mais le système de santé a été en tension, mais il a pu prendre en charge tous les patients et s'en occuper de manière satisfaisante. Donc si on ne veut pas revenir à ça, peut-être qu'il faudra revenir au confinement. Je n'en sais rien, hein, c'est une hypothèse.
On en saura plus je parlais du déconfinement, on en saura plus mardi prochain avec le Premier ministre devant les députés pour expliquer le premier déconfinement. Patricia Martin.
En fonction justement de l'urgence qui est la nôtre à tous, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se diriger plus vers une recherche appliquée pour faire donc vite, au détriment d'une recherche fondamentale qui est peut-être tout aussi utile, professeur Goffard?
Alors effectivement, c'est ça ma crainte, moi en tout cas, puisque je suis une spécialiste des coronavirus, et dans mon équipe à l'Institut Pasteur de Lille, on travaille depuis 2013 là-dessus, et jusqu'à maintenant on a énormément de mal à financer nos recherches. Pourquoi ? Parce que les coronavirus, personne s'y intéressait jusqu'à maintenant. Donc c'est difficile, effectivement. Là on voit que des moyens ont été débloqués pour une recherche, notamment par le gouvernement, hein, avec l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche, mais ces des recherches sont financées pour 18 mois. 18 mois, c'est court, c'est indispensable pour avoir des outils de diagnostic, pour mettre au point des médicaments, un vaccin, mais à plus long terme, pour mieux comprendre comment ce virus circule, comment avoir des traitements vraiment ciblés sur ce coronavirus-là en particulier, avoir un vaccin qui soit efficace dans toute la population, etc., il faut faire des recherches à plus long terme, et 18 mois ne suffiront pas, donc il va falloir financer les recherches en virologie et sur les coronavirus en particulier pendant plus longtemps.
Professeur Toussaint, les Chinois ont testé des vaccins, l'université d'Oxford aussi, avec le soutien d'ailleurs du gouvernement britannique, ils seraient en train de faire des tests également sur l'homme, pour un vaccin disponible à l'automne, donc selon Oxford. Est-ce que toutes ces annonces sont crédibles, ou je n'ose pas dire fantaisistes, mais enfin en tout cas hasardeuses encore?
Non, elles sont optimistes parce que on espère tous que soit un traitement, soit un vaccin puisse réduire une partie de la contrainte. Il faut voir effectivement, comme le disait le docteur Goffard, que ça met en général beaucoup plus de temps pour arriver à une certitude, à la fois une certitude de l'efficacité vaccinale, mais surtout un test pour que, dans une population suffisamment représentative, on puisse voir quelle est la couverture et l'efficacité de ce vaccin. Et en attendant, ce qu'il faut, c'est que le confinement soit ciblé, ou bien qu'il puisse avoir tenu compte de ce que sont les variations de l'infestation et donc de la quantité de virus qui circulent, parce qu'il faut pouvoir dépister les malades, il faut pouvoir tracer les sujets contacts et isoler cela, mais cela seulement. Il n'est pas nécessaire, lorsque l'on voit cette politique menée en Corée, menée à Taïwan, menée au Vietnam, menée au Cambodge, à Taïwan, 6 décès en 3 mois d'épidémie, 6 décès seulement. On est sur des équivalences qui n'ont rien à voir avec ce que toutes les autres causes de mortalité, dans le même temps, entraînent dans l'ensemble de ces pays. Sur la seule journée, j'en parlais tout à l'heure, du 16 avril, vous avez eu 156 000 décès dans le monde, dont 60 000 de maladies infectieuses. Donc il y a 9 000 décès liés au Covid, mais il y a une quantité phénoménale d'autres facteurs qui continuent d'agir dans le monde et dont il faut pouvoir s'occuper en même temps. C'est toute la grande difficulté de la réorganisation de nos hôpitaux, publics et privés, actuellement.
À propos des tests, professeur Goffard, la France continuera à ne tester que les personnes à risque, hein, c'est ce qu'a rappelé Olivier Véran, le ministre de la Santé, hier. Selon lui, pour que ça ait du sens, il faudrait alors refaire des tests massifs chaque jour. Il n'a pas complètement tort.
Alors là, je vais faire très attention à ce que je dis, parce que comme vous le disiez, on attend les consignes du déconfinement la semaine prochaine qui vont nous être annoncées par le Premier ministre, et peut-être que la politique, enfin de test de la population française va changer, et en tout cas les services hospitaliers, les laboratoires hospitaliers et privés qui sont habilités maintenant à faire les tests se prépare à pouvoir tester un grand nombre de Français et dans des conditions qu'il faut, selon des recommandations, pardon, qu'il va falloir préciser dans les prochaines semaines.
Mais de toute façon, pour avoir une idée de l'impact du déconfinement, il faut attendre au moins 2 semaines, voire plus, non ?
Ah oui, il faudra attendre pour revoir le virus circuler dans la population française. Il va falloir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque dans les études de modélisation, on nous dit que la deuxième vague, donc il y a une forte circulation du virus, au plus tôt arriverait fin août. Vous voyez, on a encore un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, il faut quand même continuer à appliquer des mesures barrières, les mesures d'hygiène, pour éviter une trop rapide circulation du virus.
Eh bien, merci à tous les deux, professeur Anne Goffard et professeur Jean-François Toussaint, d'être venus éclairer nos lanternes merci ce matin. Et pour le déconfinement, effectivement, on attendra les explications du Premier ministre devant les députés mardi prochain. Merci à tous les deux et bonne journée.